plusieurs.
Addiction.
Plaisir.
Addiction.
Plaisir.
Addiction.
Plaisir.
Addiction.
Plaisir.
Addiction.
Plaisir.
Addiction.
Plaisir.
Addiction. Plaisir.
Plaisir et addiction.
Moi, je suis addict au son. Je peux rien faire sans la musique. La dépendance.
Que serais-je sans toi ?
Endorphine.
L'amour. Le sexe. La drogue.
L'euphorie.
Cure de désintoxication.
L'effet mérité.
Le rire est un plaisir indispensable.
Que ce soit la paix ou le bonheur, laissez-le vous envelopper.
Avoir le plaisir de ne rien désirer.
L'argent, on en est tous addicts.
Les jeux.
Sans Montel, je suis plus rien.
La nourriture. Non, 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 non.
Le sel, j'en ai trop pris. Maintenant, je trouve que les choses ont plus de goût.
Le tabac.
Le tabac, c'est à vous. On en viendra tous à vous.
Plaisir et addiction.
Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouveau concept et nouveau sujet. Plaisir et addiction. Assez compliqué à comprendre, mais on va vous aider à y vous retrouver. En participation avec la Maison des Ados de Montpellier, nous avons Iliana, Mélissa, Jean-Jacques, Yaya, Lila, Naira et moi, Stan, la pépite, bien évidemment. On aurait tellement aimé avoir l'avis des gens sur ce sujet. Et on a réussi à enregistrer ça et on vous fait écouter ça de suite. On avait voulu faire un micro-trottoir sur notre thème plaisir et addiction, mais ça ne s'est pas passé comme prévu.
Ok, donc du coup le thème c'est plaisir et addiction. La première question c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir ?
Ça peut être votre chien.
Déjà, on a eu plein de bruits parasites, type scooter, valise.
Tu vois pas le problème ? Tu nous mets dans des endroits où il y a plus de bruit.
Et enfin, on s'était mal lancé. Les gens, ils ont pas trop compris pourquoi on faisait un lien entre
parce
plaisir
que
et addiction.
Une addiction, c'est pas forcément un plaisir en fait. Une addiction, ça peut être aussi une souffrance ou un boulet quoi dans la vie. Donc je sais pas trop.
Et les gens, ils aiment pas parler de leur addiction.
Deuxième question, est-ce que vous avez des addictions ?
Non, j'ai pas de. Non, j'ai pas vraiment d'addiction.
Non, aucune.
Il y en a même, ils nous ont dit que quand il y a addiction, il n'y a plus de plaisir, ça devient un besoin. Mais en fait, on n'est pas revenu bredouille. On a même sacrément avancé sur notre thème. Et maintenant, on va même dissocier plaisir et addiction. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué de faire la comparaison entre plaisir et addiction. C'est vrai. On va leur donner raison. Eh bien, c'était rigolo cette petite écoute.
Moi, j'ai trouvé que c'était très sympathique. Tu as beaucoup de talent.
Très sympa. Bah, merci. Merci.
Je
beaucoup.
T'en prie.
Comment tu vas, Iliana ?
Eh bien, écoute, je vais très bien. Et toi ?
Moi, ça va impeccable, hein, comme toujours.
Parfait.
Bon. Oui. Du coup, tu nous parles du débat d'aujourd'hui, de l'émission ?
Exactement. Alors, du coup, on s'est dit que ce serait bien d'approfondir un petit peu la thématique de plaisir et addiction. Qu'est-ce qu'on en pense, au final, déjà, toi et moi ? Alors, moi, personnellement, je pense que c'est important de poser, de faire la différence entre plaisir et addiction et en même temps d'y voir un point commun entre les deux. Déjà, pour la différence, en termes d'addiction, on peut trouver, je pense, différents types d'addictions. Il n'y a pas que les addictions qui nous mènent au danger du corps et de l'esprit. Il y a aussi des addictions qui peuvent être toutes simples, mais importantes quand même, comme le café, ce genre de trucs, quoi. Ou des rituels, en fait, des rituels de vie. Et puis après, il y a bien sûr dans les autres addictions, les drogues, l'alcool et tout ça. Puis dernièrement, le plaisir. Je pense que le plaisir, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans n'importe quelle petite chose de la vie. Et c'est juste une chose qui nous fait du bien et qui n'arrive pas forcément tout le temps. Et justement, on va trouver un point commun avec l'addiction parce que souvent, les addictions, elles commencent avec du plaisir. Et on a envie qu'il se prolonge, du coup, on répète les choses. T'en penses quoi ?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ton avis dessus. Moi, je trouve qu'il y a une sacrée différence entre plaisir et addiction. Déjà, il faut le dire. Plaisir, c'est quand t'aimes faire quelque chose. Addiction, c'est quand t'en as besoin. Et souvent, les personnes, ils savent pas faire la comparaison entre les deux. Parce que c'est quelque chose de lié en fait, ça, quelque chose qui se lie facilement en fait.
Ouais.
Tu fais quelque chose, comme tu as dit, tu fais quelque chose par plaisir, tu vas le faire de plus en plus.
Ouais,
et ça se transforme en addiction et l'addiction, ça te sort. Enfin, tu peux pas sortir ça de la tête.
Exactement.
L'addiction, ouais. C'est vraiment, t'es vraiment plongé dedans et pour t'en sortir, c'est impossible.
Eh ben, ça peut carrément te mener au pire de toi-même dans certains cas. Et du coup, on pourrait faire référence à un petit film d'animation qu'on a vu ensemble.
Nuggets.
Qui s'appelle Nuggets. Est-ce que tu veux dire un mot dessus et je complète après ?
Alors là, cette petite vidéo, elle m'a fait, comment dire, elle m'a fait comprendre tout de suite la différence entre plaisir et addiction.
Ouais, tout à fait.
Donc ça s'appelle Nuggets.
Nous, on est allés la voir sur Vimeo. Et du coup, cette petite vidéo, c'est des dessins tout simples. On voit comme un petit canard. Moi, j'aurais dit un petit canard.
Bah, Nuggets, moi, je dirais, ouais. Nuggets, moi, je dirais un petit chicken.
Un petit chicken,
ouais.
Un
petit piou-piou.
Un petit piou-piou, exactement.
Un petit piou-piou. On va l'appeler piou-piou.
On va l'appeler piou-piou. Et donc, piou-piou avance tout seul, comme ça. Il a l'air d'être... Bon, pas forcément hyper... Sa vie n'a pas l'air d'être très réjouissante. Et puis d'un coup, il trouve une chose qui a de la couleur. Alors, il veut y goûter. Donc, il goûte à la couleur et il se sent super mieux et ça le rend un petit peu heureux. Donc, il prend du plaisir. Qu'est-ce qui se passe après ?
Spoil toute la vidéo.
Je suis en train de spoil toute la vidéo, exactement.
Le suspense !
Le suspense, il n'y en a aucun.
On n'en dit pas plus sur Nuggets.
Ok, bah, je vous laisse voir la suite.
Sinon, ouais, c'est du spoil, quoi.
Ouais, ok, d'accord. Vous irez voir la suite.
Iliana, t'arrêtes les bêtises. Hein.
D'accord, tout de suite.
Tout de suite, on va vous parler du MoCo.
Ouais. Donc, le MoCo, c'est un centre d'art contemporain à Montpellier, près de la gare Saint-Roch, pour ceux qui connaissent. Alors, nous, on s'est rendus là-bas récemment parce qu'on a contacté le MoCo et on leur a demandé s'ils pouvaient nous sélectionner des œuvres qu'ils étaient en train d'exposer et qui avaient rapport avec le thème addiction. Enfin, oui, tout à fait, addiction et plaisir.
Bon ben bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Donc moi je suis Guillain, je suis médiateur ici. MoCo, ça veut dire Montpellier Contemporain. C'est donc l'hôtel des collections, la panacée, et c'est aussi l'école des beaux-arts. Mon métier, ça consiste à vous faire un tour des salles pour vous expliquer les œuvres, le travail des artistes, leur histoire, et aussi répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser face aux œuvres qu'on va découvrir ensemble.
Donc nous, on va travailler sur la thématique plaisir et addiction et on aimerait savoir si vous avez des œuvres à nous présenter sur ces sujets-là.
Ouais, alors j'ai pensé à 3 œuvres dans l'espace d'exposition. On pourra retrouver à la fois cette notion de plaisir, mais aussi donc, ce rapport à l'addiction qu'on retrouve dans certaines des œuvres qu'on va voir.
Ok.
Ouais, on va faire le premier. Dans la première salle, vous avez un artiste, Jean-Luc Villemoute, qui a fait ce travail pendant le confinement. Il s'est beaucoup intéressé du coup à l'histoire de la peste, à l'histoire des maladies, à l'histoire des épidémies, en se disant ben oui, c'était pas la première fois en fait qu'on était confinés chez nous et qu'on vivait une situation sanitaire dramatique comme ça. Donc du coup, il s'était intéressé à l'histoire de la médecine et notamment aux médicaments qu'on pouvait utiliser pour soigner les gens. Et donc il avait trouvé un médicament qui s'appelle la thériaque et l'université de Montpellier était très réputé pour la fabrication de ce médicament. C'est un médicament qui a été utilisé pendant plus de 2000 ans. Il y avait une centaine d'ingrédients qu'on mettait dedans et c'est un médicament qu'on donnait aux gens s'ils attrapaient la peste, mais aussi c'était un contrepoison très réputé. Et pour arriver à la question de l'addiction, l'un des ingrédients que les pharmaciens utilisaient, que les médecins utilisaient depuis l'Antiquité, c'était l'opium. On faisait une recette, on mettait à peu près 200 grammes d'opium dans le médicament qu'on donnait aux gens. Donc évidemment, quand vous preniez une bonne dose d'opium, tout de suite, vous vous sentiez un petit peu mieux, vous commenciez à planer et vous aviez l'impression d'avoir un médicament qui vous fait quand même de très bons effets. Et puis, vous savez, l'opium, etc., c'est des drogues qui créent vraiment très vite beaucoup d'addictions. Geoffrey Badel, donc lui, il a refait en céramique un pot à thériaque. Il avait fabriqué sa propre thériaque en suivant une vieille recette. Et vraiment, ça sent comme le vomi. Il a pris des draps et il a plongé les draps dans la thériaque. Donc en fait, quand les spectateurs rentrent dans la salle, il y a un ensemble de draps qui forment comme une porte pour évoquer un temple. Il voulait que les gens rentrent comme dans un temple et en laissant toutes les mauvaises choses justement qu'ils peuvent avoir derrière eux et se mettre à l'abri dedans.
En entrant dans cette pièce, ça fait un petit peu peur. Parce qu'on voit une main qui sort derrière un mur. Après, il y a une statue. Enfin, on dirait que c'est quelqu'un qui est coincé dans le mur. C'est comme si on vivait dans un monde des zombies.
Alors, ça signifie quoi de mettre des doigts et des mains comme ça? Alors, c'est ceux de l'artiste. Donc, c'est sa propre main qui l'a moulée. Donc déjà, bah, c'est un élément important pour un artiste. C'est avec la main que tu crées, c'est avec la main que tu fabriques des choses. Et en fait, tu as beaucoup de religions aussi, tu sais, où on ne représente pas forcément Dieu. On ne peut pas le représenter comme ça. Et donc, parfois, on va passer, par exemple, par une main. Une main divine qui sort comme ça des nuages, qui arrive du ciel et qui pointe le monde des hommes pour leur adresser un message, un avertissement, une catastrophe ou produire un miracle. Voilà. Quand tu rentres dans des temples, il y a souvent ce côté un petit peu obscur. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'apparitions. Là, en fait, l'artiste, il a fait le moulage de son visage, il l'a posé contre le mur et il y a une peau de serpent qui en sort. La peau de serpent, c'était un des éléments qu'on utilisait dans la thériaque. Bah oui, en se disant, si le serpent ne meurt pas à cause de son poison, peut-être que si on met des éléments du serpent dans le médicament, bah, ce qu'il protège lui va aussi nous protéger nous. Et en fait, il avait vu des vieilles photos du 19e siècle où on voyait des fantômes, des esprits sortir du nez, sortir des oreilles, des bouches, des gens. Ça s'appelle les ectoplasmes. Et donc, du coup, il voulait donner l'impression, en fait, que le serpent est en train, comme un fantôme, de sortir de son nez. Donc, c'est vrai que c'est une installation, du coup, bah, qui fait beaucoup penser aussi au monde des esprits. Voilà. Et donc, bah, qui est un monde, souvent, qui nous fait un petit peu peur, qui nous impressionne.
Dans un musée de grandes manœuvres, il existe une œuvre. Elle est un temple des plaisirs charnels et des plénitudes éternelles. Dans son sein, on croirait voir passer les temps traversant Ecbatane et son palais. D'abord solide et enjoué, opium et musique, puis démembré et scellé, calmes uniques. Dans ce temple, le serpent s'est trouvé nu, déshabillé de sa vieille mue. Il a vu courir la mort et la renaissance de son corps. Et quel que soit le cœur qui y rentre, il sent pousser en lui une mélodie de chantre qui s'accroche à ses artères et l'empoisonne, démon d'une drogue dont les voix sonnent. Dans un musée de grandes manœuvres, il existe une œuvre. Elle est un temple de draps décrépits et de mains meurtries.
Je sais pas si quelqu'un veut lire le titre.
Bar séduire.
Ça vous fait penser à quoi comme lieu?
Ouais, une boîte de nuit. Un bar.
Qui sont vraiment faits pour les rencontres amoureuses, souvent le soir.
Donc là, on est au milieu d'une installation d'un artiste français qui s'appelait Jean-Luc Villemout. Et donc ce monsieur, c'était un très très grand professeur aux Beaux-Arts à Paris. Pour lui, l'art, c'était un moyen de créer des contacts, de créer des dialogues, de créer des échanges pour les gens. Pas seulement pour les artistes, mais aussi pour le spectateur. Donc lui, il voulait des ambiances, des lieux où on peut aussi se poser, réfléchir et un petit peu analyser ce qui se passe. Donc là, pour Bar Séduire, il a pris des caméras qu'il a données à des acteurs et il leur a demandé d'essayer de séduire l'autre. Donc alors, est-ce que vous êtes séduit? Est-ce qu'il y en a qui vous mettent mal à l'aise ou pas?
Tout à l'heure, il y avait une femme qui dansait super bien, je trouve. Et en même temps, elle se déshabillait un peu, mais pas trop. On rentre un peu dans l'intimité de la personne.
Enfin, il y en a, ils utilisent plus leur visage. Et il y en a, c'est plus leur corps, la gestuelle et tout. Alors que là, c'est plus dans les expressions et dans comment ils parlent.
J'ai bien aimé le concept de l'exposition Bar Séduire, car il s'agit dans cette œuvre de créer un espace de rencontre autour d'un dispositif d'objets. Table, lampe, tabouret, qui installe le visiteur dans l'espace. Chaque table est individuelle. Un seul tabouret est placé face à un écran. Les rencontres ne peuvent se faire donc qu'à travers un écran. Chacun est libre de quitter son écran pour aller voir ailleurs. Et on trouve aussi sur les murs de Bar Séduire quelques lignes « You and me ». Ce qui m'a marqué dans cette œuvre, ce sont les femmes de ce bar qui utilisent plutôt leur corps pour séduire les hommes dans la vidéo. Je pense que l'idée de l'artiste était de faire remarquer aux visiteurs le fait que les hommes sont souvent attirés par l'apparence. Et malheureusement, il n'a pas tort. Je me suis rendu compte que les hommes se focalisent beaucoup sur l'apparence physique de la femme. Et quand un homme se met en couple en se basant sur l'apparence, à un certain âge, il se plaint. Quand elle a un corps séduisant, il la trouve belle. Puis quand la femme subit les effets du temps de son parcours de vie, l'accouchement par exemple, ou le corps qui se transforme, les rides, les cheveux blancs, ça y est, elle ne lui convient plus. Parce que le mec, il est resté accroché à l'image de sa femme qu'elle a connue quand elle était jeune. Il s'est pas posé la question de ce qu'il est devenu lui. Regardons les générations précédentes. On voit des couples de plus de 70 ans. Ils marchent main dans la main. On sent cet amour. C'est tellement beau. Et à côté de ça, aujourd'hui, il y a des couples, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble. L'un, il marche à gauche. L'autre, il marche à droite. Ils se tournent même le dos. Souvent, parce qu'ils se sont choisis trop vite, pour de mauvaises raisons. Mais la vérité, pour moi, c'est que toutes les personnes sont belles. Parce que la beauté vient du cœur et pas du physique. C'est sûr, le bar reste un bel endroit pour se rencontrer. Mais dans cette œuvre, je crois que l'artiste a voulu nous alerter sur le fait de ne pas regarder que l'apparence.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les gens ont plutôt tendance à se séduire en se parlant dans la vraie vie ou plutôt en utilisant des applications de rencontres, des sites, des téléphones ?
Je pense que forcément, il y a pas mal de personnes qui se séduisent à travers un monde virtuel, mais soit il y a les applications de rencontres, mais il n'y a pas que ça, en fait, on fait plein de rencontres sur les réseaux sociaux. Là, c'est différent et ça peut même mettre mal à l'aise parce que à chaque table où il y a une télé, il y a des tabourets. Donc en fait, c'est une invitation personnelle à se faire séduire et peut-être même à séduire, justement. C'est différent de ce qu'on peut connaître d'habitude, vu qu'on fait plus ça par les réseaux et tout ça.
Lui, en fait, voyez, il a commencé à faire travail là dans les années 90, à un moment où vraiment les internets, les écrans, etc., ça commence à être mais directement utilisé pour rencontrer des gens, se parler, séduire. En fait, lui, il avait voulu parler avec cette œuvre de la difficulté qu'on a parfois à s'exprimer, à donner son identité. Puis surtout, voilà, vous avez vu, il y a plusieurs tables, il y a plusieurs tabourets. Quand tu es devant un écran, ça ne te plaît pas.
Tu peux changer.
Voilà, tu peux changer, donc tu vas aller voir un autre écran et tu vas aller voir une autre personne. Et finalement, il fait ça dans les années 90, mais est-ce que c'est pas exactement comme ça que ça marche Tinder, quoi ?
Merci pour la visite, continuez comme ça.
Et bien, un grand merci au Moko et à Guillain qui nous a guidés dans le musée tout du long. Ça nous a beaucoup fait réfléchir, honnêtement, sur notre thématique, mais en même temps...
En même temps, c'était le but de l'émission. Hein,
bah ouais, c'est vrai. C'est
de
vrai
faire réfléchir.
C'est vrai, tout à fait. D'ailleurs, notre thématique, plaisir et addiction, c'est le genre de thème sur lequel on ne finit jamais de réfléchir quand on y pense.
Jamais, 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 jamais.
Et exactement. Alors, du coup, pour clôturer cette émission, je pense que ce serait bien aussi de remercier toutes les personnes qui ont participé, à savoir les jeunes de la Maison des Ados à Montpellier et bien sûr Wakadi. Donc, qui sont les jeunes de la Maison des Ados, Stan ?
Nous avons Lila, Yaya, Naira, Mélissa, Jean-Jacques, Iliana et moi, la pépite,
Stan,
comme
la pépite,
je l'ai dit tout à l'heure.
Exactement. Bon. Donc du coup, nous, on va partir, mais qu'est-ce qu'on fait avant de partir en
Moi,
général ?
Je pars en voyage.
Exactement, tu pars en voyage.
Ouais.
Ah oui, t'as de la chance. Ah oui, d'accord, je vois. Donc tu fais quoi quand tu pars en voyage ?
Déjà, comme toute personne... humaine, enfin normale, on prépare une valise.
Effectivement.
Et on met quoi dans sa valise ?
Eh ben, on prend tout ce dont on a besoin, à savoir nos addictions et nos plaisirs.
Dans ma valise, liste des choses que j'emmènerai partout avec moi. Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud.
Mon ordinateur.
Un paquet de cigarettes à 10,50€.
De la bouffe pour se nourrir.
Ma colère pour la jeter ensuite.
Un roman d'Alice Osman.
Un coussin gonflable pour se reposer.
Mon casque pour la musique.
Un Opinel 12.
Les musiques de Noah Fiennes.
Ma boisson préférée pour rafraîchir mon corps.
mon appareil photo dans lequel j'aurais préalablement enregistré une photo de mes parents des années 90.
Une paire de gants.
Mon ukulélé.
Beaucoup d'argent pour accomplir mes rêves.
Au revoir.
Salut, salut.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.